France Musique.
I have a dream.
Yes, we can.
Le 4 heures américain. Antoine Baglin.
Bonjour à toutes et à tous, vous voici réunis pour le 4 heures américain. Cette troisième heure sera consacrée à la recherche des histoires de l'histoire qui ont nourri les heures, les rêves et les identités des exilés durant le XXe siècle aux États-Unis. Des canyons aux étoiles, troisième épisode, on y va. Allez, venez vite, vous êtes attendus par la Hawaiian Airlines.
I see dead people.
Songeons à une plage. Elle s'étend jusqu'au ciel. Un ciel à la teinte orangée. Hawaï. Vous y étiez à l'instant avec Elvis Presley. C'était la bande-son d'un rêve aux couleurs saturées. Mais un rêve qui s'arrête, car la fin de la sieste a sonné. Depuis l'annexion d'Hawaï en 1898, les États-Unis ont vécu une épopée qui a marqué leur histoire. Laquelle ? La conquête de l'Ouest. L'aventure d'une armée de pionniers qui ont tourné le dos à l'Europe pour aller toujours plus haut, toujours plus loin. À l'ouest, ils traversent les rocheuses, les canyons, et ils y croisent les Indiens. Comme d'autres paysages américains, Hawaï a l'iconographie d'un American Way of Life jeté au milieu d'une nature incroyable. Mais toute destination est un cliché, car derrière ce paysage mental, songeons aux étranges radars antimissiles de ces îles, ils nous rappellent que le bout du monde est un cliché inventé par Hollywood. À l'image d'Hollywood, justement, cet épisode s'ouvre sur un paradoxe. La quintessence de ce que représente l'Amérique a été fondée, dirigée, alimentée pendant un demi-siècle par des Juifs d'Europe centrale qui représentaient tout sauf la quintessence de l'Amérique. En début de siècle, c'est la révolution russe qui a chassé Yasha Efetz ou Igor Stravinsky. Puis c'est le premier conflit mondial qui pousse Fritz Kreisler à s'expatrier. Parmi ceux qui sont déjà devenus américains, passés par la porte d'Ellis Island, il y a les parents de Leonard Bernstein, tout comme ceux de George Gershwin. Mais c'est surtout la montée inexorable du nazisme qui a provoqué le passage outre-Atlantique du plus grand nombre de musiciens. Lisa qui inspire, Lisa qui expire. Quoi qu'il en soit et avec courage, ces immenses talents se sont régénérés et ont contribué à transformer la vie des États-Unis. Ils ont transcendé leurs blessures en une œuvre, donc collectivement, ils ont signé la toile. Écoutons Arthur Rubinstein au micro de Claude Samuel.
L'Amérique, n'oubliez pas, c'est un enfant qui est en train de grandir. Il faut avoir beaucoup d'indulgence pour l'Amérique et beaucoup, beaucoup d'amitié. On ne la comprend pas, l'Amérique.
«
Quand on demandait à Arthur Rubinstein comment il obtenait ce ton narratif, cette façon de raconter des histoires sans jamais trahir le texte, il répondait qu'il ne jouait pas pour une salle entière, mais pour une seule personne. À bord d'un bateau en 1906 pour rejoindre les États-Unis, et alors qu'une tempête fait rage, Arthur Rubinstein joue durant 9 heures d'affilée pour distraire les passagers. Aux États-Unis, la critique lui mord les mollets, tous lui préfèrent Hoffmann ou Rachmaninoff. Sous les doigts d'Arthur Rubinstein, c'est le concerto numéro 2 de Rachmaninoff que vous écoutez.
Je n'aime pas tellement l'Amérique parce que j'ai besoin des gens grandis et pas de patience avec leur jeunesse exagérée. Vous comprenez, soyons justes. Je m'impatiente très souvent de leur naïveté, de leur vraiment bêtise quelquefois. Ils parlent très souvent en garçons de 12 ans. Voilà. Au fond, ce sont encore des garçons de 12 ans.
...1917, et la révolution fut. Rachmaninoff, ce pacifique horrifié par toute violence, comprend alors que sa Russie sera désormais intérieure. Sa fuite survient à la fin de l'année 1917, en traîneau d'abord pour atteindre la frontière suédoise, puis il gagne les États-Unis. C'est un pays qu'il connaît déjà pour y avoir effectué des tournées de récital. Il débarque sur la Terre Promise le jour de l'armistice de 1918. Durant la seconde moitié de 1918, les massacres de cette révolution se poursuivent. Les révolutionnaires, les rouges et les tsaristes, les blancs, luttent. Les rouges lèvent l'épée pour détruire, disent-ils, toute forme d'oppression. Selon eux, le sang peut colorer à lui seul le drapeau noir de la bourgeoisie en un étendard rouge. Pourtant, en 1917, selon un témoin, l'espérance semble invincible. Archivina 1967.
Il faut se rendre compte de l'état d'euphorie de la population de Petrograd le premier jour de cette révolution. Tout le monde se sentait le cœur ouvert et les bras ouverts envers tout le monde. On s'embrassait dans les rues, les régiments passaient, les orchestres jouaient la Marseillaise. On s'adressait dans les rues, les inconnus parlaient, échangeaient ses expressions. Il y avait une expression d'une joie profonde et de l'espérance, comme il semblait invincible, qui rayonnait dans le regard, dans les visages. Il faut être présent pour comprendre ce que c'était ces journées inoubliables.
Et en effet, malgré les premières mutineries, personne n'anticipe aussi rapidement l'effondrement du régime tsariste. Aux premières heures de la révolution de 1917, les compositeurs russes nourrissent de grands espoirs envers le nouveau régime. Mais les années 1930 bouleversent leurs attentes. Les arts sont totalement repris en main par Staline. Le dictateur impose une doctrine esthétique dès 1932. Stravinsky n'aura pas attendu la chute du tsar pour quitter sa patrie. En 1917, il est en France et dans les années 1920, il arrive aux États-Unis. Arrivé aux États-Unis durant l'après-guerre, Stravinsky rompt peu à peu avec la musique russe. Il s'inspire alors des musiques modernes, s'intéresse à la musique sérielle et au jazz notamment.
Thank you.
l'Ebony Concerto par le clarinettiste Woody Herman, une œuvre signée Stravinsky, devenue américain. Dès le début des années 20 et avant que ne se développe le mouvement de la Renaissance de Harlem, le poète Langston Hughes commence à rattacher son art au jazz et au blues. À New York, il devient l'un des chefs de file de la Renaissance de Harlem grâce à un essai, The Negro Artist and the Racial Mountain. Son œuvre devient le manifeste de toute une génération de jeunes artistes noirs, un manifeste qui résonne aujourd'hui jusqu'au Black Lives Matter. Là où vous êtes, écoutez-le, il se livre sur l'ORTF en 1964.
J'ai écrit des poèmes dans la manière de les spirituals, oui, et quelques compositeurs ont fait de la musique pour mes poèmes dans ce style. Mais vous savez que ce n'est pas vraiment les spirituals, parce que les spirituals sont folkloriques.
I'm on my way,
I'm on my way.
Ce n'est pas sans surprise que j'ai vu naître une minorité majoritaire. Vous savez qu'à notre époque, certaines minorités veulent se répandre comme des majorités et des majorités veulent donner leur opinion comme jadis les minorités.
C'était à Harlem.
Pendant que Duke Ellington fait swinguer le Cotton Club, Jean Cocteau, dans son premier voyage autour du monde publié aux éditions Gallimard, décrit Harlem comme une chaudière de la machine et sa jeunesse noire qui trépigne, le charbon qui l'alimente et qui imprime le mouvement. Effectivement, bien que la comédie musicale naissante se fasse l'instrument de la promotion identitaire blanche, les artistes noirs y pénètrent progressivement et y livrent une autre proposition que cette vision étriquée.
Battle of Jericho, and the walls come tumbling down.
That morning,
Joshua fit the battle of Jericho.
Joshua fit
the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. You may talk about the king of Gideon, you may talk about your man of Saul. There's none like good old Joshua at the battle of Jericho. Up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Go below them rams, horns, Joshua cried, 'cause the bad lamb in my hand. Then the lamb, ram, sheep, horns begin to blow, trumpets begin to sound. Joshua commanded the children to shout, and the walls come a-tumbling down.
That morning,
Joshua fit the battle of Jericho, Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come a-tumbling down.
That morning,
Joshua fit the battle of Jericho,
Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come a-tumbling down.
A good morning, brother pilgrim, pray tell me where you're bound. Tell me where you're traveling to on a disenchanted ground. My name it is Bold Pilgrim, to Canaan I am bound. Traveling through this wilderness on a disenchanted ground.
That morning,
Joshua fit the battle of Jericho.
Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come a-tumbling down.
That morning, Joshua fit the battle of Jericho.
Joshua fit the battle of Jericho. And the walls come a-tumbling down.
Joshua Fit the Battle of Jericho par Paul Robeson. Ce chant date du 19e siècle et les paroles font allusion à l'histoire biblique de la bataille de Jéricho, une bataille liée à la conquête du pays de Canaan. Le peuple d'Israël fait alors sonner ses trompettes. Les exemples d'artistes qui historiquement ont réussi à percer le plafond de verre du star system blanc sont rares, et le rapport culturel défie, rarement là aussi, la politique raciale effroyable de l'Amérique. Au moment où le rôle des Noirs au cinéma continue de faire débat, il y en a un qui doit se retourner dans sa tombe. Paul Robeson, athlète, devenu vedette noire de cinéma et de théâtre, fut dès les années 30 à la pointe de ce combat. Aux côtés d'une génération d'artistes et d'intellectuels afro-américains, Paul Robeson se bat pour la Harlem Renaissance. Il lutte pour s'approprier l'héritage africain volé durant l'esclavage. Il dénonce la condition des Noirs et revendique son identité américaine. En fait, Paul Robeson implore une identité multiple en perpétuelle interaction avec le monde. En cela, il anticipe le « tout monde » d'Edouard Glissant. Malheureusement, ses engagements l'ont mis à l'épreuve et la répression dirigée contre lui par son propre pays aura raison de sa popularité. Paul Robeson est aujourd'hui une figure encore trop effacée de l'histoire américaine, encore un mauvais rêve, sans nul doute. Alors, quel est ce rêve? D'aucuns diraient que c'est la ruée vers l'or en Californie qui fut l'un des événements fondateurs des États-Unis. Une histoire parmi la grande. Près des montagnes rocheuses, Jim, jeune chercheur d'or, rencontre la ravissante Rosemary. Les deux tombent amoureux l'un de l'autre et conviennent de partir ensemble au Brésil, où une situation lucrative attend le jeune homme. Le rendez-vous est pris dans la montagne, et si au dernier moment une difficulté empêchait la jeune fille de le rejoindre, elle entendrait le chant indien.
Sous-titrage Société Radio-Canada. when I'm calling you. Will you answer too?
Le chant indien issu de l'opérette Rosemary de Otto Harbach et Oscar Hammerstein II. Ici, Jacques Baudouin donnait la voix en anglais, en français c'était Micheline Dax. Il y a 70 ans, un Reich, qui se voulait de 100 ans, s'embrase dans la haine raciale et chasse ses leaders culturels. Pour beaucoup d'entre eux, la France était le premier havre de paix, après avoir échappé aux griffes des bourreaux hitlériens. Parmi eux, Friedrich Hollander, auquel nous devons les inoubliables mélodies de l'Ange Bleu. Ses collègues des studios sont Norbert Glanzberg, Franz Waxman, tout comme les metteurs en scène Billy Wilder, Max Ophüls ou Fritz Lang. Les bourreaux mourront aussi.
Auf Wiedersehen. À bientôt.
Sous le joug nazi est organisée en 1937 une exposition intitulée « Art dégénéré ». L'anathème est jeté sur les musiques atonales, la musique sérielle, le jazz appelé nègre, la musique tzigane, les compositeurs de confession juive, ou politiquement à gauche, ou encore une grande partie des modernistes du premier tiers du XXe siècle. Bien avant, dès 1928, des affiches du parti nazi appellent à manifester contre l'opéra jazz, traité, je cite, « d'insolente salissure judéo-nègre ». Mais avec cette exposition, les nazis enracinent leur idéologie et conquièrent la préservation d'une prétendue pureté de la musique allemande. Ils veulent montrer ce qui a été censuré, selon eux, nettoyé depuis 5 ans. La couverture de la brochure de l'exposition représente un noir jouant du saxophone avec l'étoile de David au revers de son veston. Ce détournement provient de l'opéra Johnny Split Auf de Ernst Krenek que vous entendez actuellement. Cet opéra représente un tatamar de jazz dans la musique classique. Sa musique, considérée comme dégénérée, est jugée à la fois juive, bolchevique et nègre. Le diktat de la valise commence pour les musiciens et chefs appelés dégénérés en 1933. N'ayant d'autre choix que l'exil ou les camps de concentration, de nombreux artistes prennent la fuite. Arnold Schoenberg, professeur de composition à l'Académie des Arts de Berlin, est chassé de son poste lors de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Hans Eisler, un communiste convaincu, est mis au banc de la société par le régime nazi. Commencent alors pour lui 15 années d'exil qui le conduisent aux États-Unis notamment. Bien sûr, il en est de même pour les compositeurs Darius Milhaud, Kurt Weill, Korngold ou Béla Bartok qui fuient tous l'Allemagne nazie pour se réfugier outre-Atlantique. La liste des compositeurs est innombrable et évidemment de nombreux interprètes connaissent le même sort. C'est le cas de Rudolf Serkin, Arthur Schnabel, Clara Askill, Otto Klemperer, tant d'autres. Au cœur de l'horreur concentrationnaire, des musiciens choisis sont forcés de jouer pour alimenter l'innommable, les exécutions à la chaîne des déportés devant des SS imperturbables. En tuant tous les peuples qu'ils méprisaient et en musique, Hitler était en train d'édifier son propre mythe. On pense à l'orchestre d'Alma Rosé, ou, dans un autre registre, au chant des enfants du camp de Theresienstadt. Depuis 30 ans, le pianiste italien Francesco Lotoro ne vit que pour ce qu'il appelle sa mission, c'est-à-dire réunir toutes les musiques produites dans les camps de concentration du monde entier. Un pari difficile, tant les effets et instruments des populations déportées étaient pillés avant leur déportation dans des wagons à bestiaux. Des milliers de trains partaient alors vers l'horreur. Nous ne savons combien de trains, différents trains. Steve Reich, par le quatuor Tana.
Premièrement, je suis communiste. Deuxièmement, je suis juif. Alors, ces deux choses, vous pouvez constater que ce sera une raison de quitter mon pays. Vous écoutez France Musique, vous écoutez le 4 heures américain.
Robin des Bois par Korngold. Nous en parlions tout à l'heure, l'Autrichien est l'un des plus grands de Hollywood. Le compositeur phare de la scène viennoise d'avant-guerre a donné à la musique de film toutes ses lettres de noblesse, notamment par son style post-romantique. En 1938, il est le premier compositeur à se voir décerner un Oscar pour les aventures de Robin des Bois de Michael Curtis avec Errol Flynn. Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est à l'invitation du metteur en scène Reinhardt que Korngold prend la fuite pour Hollywood en travaillant notamment chez les frères Warner. En faisant appel à Korngold, les Warner prennent une décision éminemment politique, car Robin des Bois est une œuvre politique. L'intrigue nous rappelle l'essentiel, la nécessité de la révolte face à l'injustice, car au fond, Robin des Bois, c'est une figure de la révolte. Sa révolte nous rend libres parce qu'elle nous fait exister davantage en faisant de notre indignation la clé d'une mobilisation collective. Sa révolte peut donc changer notre vie. Écoutons un autre signe poétique de révolte face à l'oppression. The Genesis Suite par Arnold Schoenberg. Lorsque de grands artistes unissent leurs forces pour répondre au mal par le beau, il en reste toujours quelque chose. The Genesis Suite ou la tentative de concilier la musique de Hollywood avec celle de la vieille Europe. Cette œuvre, initiée par Nathaniel Schilkret, repose sur une interprétation des 11 premiers chapitres du livre de la Genèse. Elle est singulière à plus d'un titre car elle est collaborative. On compte 7 compositeurs parmi lesquels Tansman, Millau, Castelnuovo Tedesco et Stravinsky. Stravinsky et Schoenberg réunis sur une même œuvre, oui c'est possible, sans doute le rêve américain. Le prélude pour orchestre de Schoenberg ose le pari de décrire l'état du monde avant la création. À l'écoute de l'œuvre, certains y trouvent des procédés du cinéma hollywoodien. Robert Kraft est allé jusqu'à parler de MGM Engine.
Bed, bed, I couldn't go to bed, my head's too light to try to set it down.
Elle n'est pas issue de la MGM, mais Audrey Hepburn a une histoire tout aussi singulière.
I couldn't sleep tonight.
Et avec elle, bien sûr, l'on pourrait danser toute la nuit. Frédéric Lowy, I could have danced all night.
I could have danced all night. I could have danced all night. And still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done.
With me, I could have danced, danced, danced.
still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I'd never know what made it so exciting. Why all at once
My Fair Lady, interprétée par Marnie Nixon, c'est la plus célèbre des chanteuses fantômes. C'est elle la voix d'Audrey Byrne dans My Fair Lady ou celle de Natalie Wood dans West Side Story. Un pari réussi et ici orchestré par André Prévin. Venu du jazz mais de formation classique, André Prévin, le mégalithe fantastique multicolore et tout à la fois, chef d'orchestre, compositeur et pianiste. Sa famille ayant fui le nazisme, c'est à Los Angeles qu'il reçoit sa formation musicale auprès de Pierre Monteux. Avec My Fair Lady, André Prévin signe un bijou de musique pour le cinéma et rend inoubliable son rôle de vendeuse de fleurs. Et pourtant, le rôle le plus important d'Audrey Byrne est peut-être celui qui est le moins connu, celui de sa propre vie, l'histoire d'une aristocrate hollandaise élevée par des parents dont les allégeances politiques sont controversées. Audrey Byrne, elle, aide à la résistance contre les nazis. Elle ne le sait pas, mais Anne Frank vit à quelques kilomètres. Anne rêve de devenir actrice et rêve d'Hollywood. Audrey Byrne réalisera son rêve. Lucas Foss, Elegy for Anne Frank.
Je savais que moi j'étais à l'extérieur, qu'il y avait des enfants et des gens cachés. Elle décrit tellement bien ce qu'on a passé, même en étant à l'intérieur, parce qu'elle voyait très loin. Et ces passages extraordinaires, quand elle dit l'unique façon de voir le changement des saisons, c'est par l'arbre dehors sa fenêtre.
De cette Seconde Guerre mondiale, Audrey Byrne gardera des souvenirs douloureux. Je la cite. J'étais à la gare, regardant des convois de trains de juifs, voyant tous ces visages dans le haut des wagons. Je me souviens, de manière très nette, un petit garçon debout avec ses parents sur la plateforme, très pâle, très blond, portant un manteau beaucoup trop grand pour lui, et il montait dans le train. J'étais un enfant observant un enfant. En 1958, Audrey Byrne est sollicitée pour interpréter le rôle d'Anne Frank dans une adaptation à l'écran de son journal. L'iconique actrice, portant en elle l'histoire de la plus célèbre des victimes de la Shoah, décline cette proposition qu'elle juge trop difficile à endosser. Avant de prendre cette décision, elle rencontre même le père de l'adolescente, Otto Frank, survivant d'Auschwitz-Birkenau. Le plus grand camp d'extermination est libéré un an après la libération de Paris. Lily Pons chante Ronsard.
Tu vois les belles fusées du printemps quand tu t'irrites, et pas encore refusées. Oh, tu vois, tu te penses que tu es ma mère. Animez les feux.
J'ai été dans l'armée américaine pour 9 mois. Et je suis allée en Chine, en Birmanie, aux Indes, en Perse, en Irak, en Afrique, en Italie, en Allemagne, en Belgique et à Paris. J'ai chanté aussi pour tous les alliés et jamais je n'aurais voulu manquer une aussi grande satisfaction que de chanter pour les soldats.
Durant la Seconde Guerre mondiale, Lily Pons s'engage résolument pour son pays. Elle chante régulièrement devant les troupes alliées. Elle devient une diva adulée d'un public, séduit autant par sa personnalité que par son talent. On va jusqu'à donner son nom à une ville du Maryland, et on vend même des poupées à son effigie. De nombreuses retransmissions radiophoniques et des films tournés à Hollywood contribuent encore à amplifier son succès. L'opéra devient ainsi accessible à un large public. Grâce à Lily Pons, la petite Maria Callas découvre l'art lyrique en se passionnant pour les retransmissions du Met, qui détermineront sa vocation de chanteuse. Son attitude exemplaire lui vaudra d'être conviée aux fêtes commémoratives de la libération de Paris le 25 août 1945. Paris est libéré, la ville s'embrase, la France est libérée du joug nazi. Les Françaises et Français s'embrassent. Robert Doisneau, qui a notamment photographié Fildes Zepova à la Libération, a lui aussi chanté un baiser, le baiser de l'hôtel de ville en 1950. Comme marqué au fer rouge après la guerre, plus jamais ça. Et peu importe les guerres, les prisons, je suivrai mon amour, il n'y a pas d'océan trop profond. Je l'aime, je suivrai mon amour, nous sommes en 1962. Le bonheur, Peggy March.
Touch my hand, I knew that near him I always must be, and nothing can keep him from me. He is my destiny. I love him, and where he goes, I'll follow, He'll always be my true love, my true love, from now on. Follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away, away from my love. I love him,
À présent, une autre histoire d'amour durant les années les plus folles de Hollywood. Elle fut sublime dans Pandora, Mogambo ou La Comtesse aux pieds nus. La brune d'Hollywood, Ava Gardner, détrône tout le monde en donnant la réplique au plus grand et en séduisant tous les hommes sur son passage, à commencer par Frank Sinatra. C'est dans les champs de tabac de Caroline du Nord qu'Ava grandit. Elle n'est absolument pas prédisposée à la gloire, mais sera repérée par les plus grands des hasards, à New York, par un membre de la MGM. Comme disait Romer, c'est les hasards qui donnent le sens. Et effectivement, Ava a un accent à couper au couteau. Elle n'est pas tellement brillante durant ses débuts d'actrice. Mais Louise B. Mayer a cette phrase incroyable. Elle sait pas parler, elle sait pas marcher, elle est formidable. La brune incendiaire sera transformée en icône planétaire par son insolence et sa folie, son mépris du qu'en dira-t-on. Elle est désopilante et déplaît au star system. Tant mieux, elle était merveilleuse. Frank Sinatra en était fou, et leurs phrases que nourrissaient les pages des journaux à scandale et ont contribué à forger leur légende. Ils étaient divinisés par les foules, et pourtant étroitement contrôlés par les studios qui les avaient inventés. Ava et Franck aimaient la liberté et notamment, un peu alcoolisés, tiraient les étoiles avec un flingue. Frank Sinatra, Fly Me to the Moon.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
De Sinatra, certains se souviennent notamment en 66 ce concert génial avec le Count Basie Orchestra et un Quincy Jones encore très très jeune. Ou encore en 1945 dans The House I Live In d'un Sinatra qui joue son propre rôle. Dans ce film, il s'oppose à l'antisémitisme et aux préjugés au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Les Juifs d'Europe, fondateurs d'Hollywood, croyaient au rêve américain, car ils croyaient à leur rêve. Lorsque Louis B. Mayer passait par la porte d'Ellis Island, fonde la MGM, il le dit tout de suite, le studio est là pour produire des films qui inspirent les Américains. Ils doivent leur transmettre les valeurs les plus admirables et ne doivent produire que des histoires morales ou avec une fin morale. Charles Foster Kane incarne cette constellation de valeurs, d'attitudes et d'images. En 1974, Olivier Messiaen visite l'Utah. Il a reçu une commande pour célébrer le bicentenaire des États-Unis. Il compose des Canyons aux étoiles, une œuvre multicolore qui utilise les chants d'oiseaux de l'Utah et des îles hawaïennes. Cette œuvre résume l'Amérique, des canyons, des cow-boys, des Indiens, leurs gangs westerns, jusqu'aux étoiles des premiers pas sur la Lune. Face aux sombres jours que connaissent les États-Unis et face au long tunnel vers la justice du Robin des Bois de Korngold, concluons ce troisième volet par une catharsis. Asaf Avidan, israélien, à la voix d'or, assez écorché pour qu'on puisse la définir comme le pan de ces histoires que nous venons d'esquisser.
You, my friend, have nothing to fear, my friend. You have nothing to fear, my friend. Except for love. We're moles, my friend. We are just moles, my friend. Blind against the dark. That's where we belong. The hungry crocodile are dancing in the light. But what's up there beside the darkness of the night? The hungry crocodiles are dancing in the light. But what's up there beside the darkness of the night? Forget them, friend. You better hear, my friend, where the tunnels never end. To love is to pretend. Don't try to love yourself again. That is the worst kind of pain. We're not those kind of freaks. Amen. We're a different sort of breed of men. Up there they're drinking down a day. They mix it with a Chardonnay. They try to keep the dark at bay. Down here the darkness stays. The hungry crocodiles are dancing in the light. But what's up there beside the darkness of the night? The hungry crocodiles are dancing in the light. But what's up there beside the darkness of the night? The hum crocodiles are dancing in the light, but what's up there beside the darkness of the night?
La semaine prochaine, dans la lutte pour l'égalité, nous continuerons d'affirmer que oui, nous insistons. Le quatrième volet de cette série fera la jonction entre Black Lives Matter et MeToo, un même combat que portent des artistes aussi éclectiques qu'engagés, aussi passionnants que vibrants. Nous les entendrons samedi prochain et à leur côté nous serons et ils éclaireront les marches pour nos vies. À la réalisation, merci à Marie Groux, à la prise de son Éric Boissé et au mixage Pierre-Henri. Merci également à Annie Lozana, Marie Chauveau et Marine Decamp. Vous retrouverez les références des morceaux et archives sur francemusique.fr. Quelle est la forme des jours aux États-Unis? Réponse le 25 juillet. Il est maintenant l'heure de retrouver Jérémy Rousseau. Merci et à samedi prochain.
À réécouter sur francemusique.fr.